Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, pourquoi la vérité n'a-t-elle plus de valeur? Faut-il réfléchir à une nouvelle éthique intellectuelle? Dans des sociétés où le baratin semble être devenu la règle, il s'intéresse à redonner du sens à cette valeur longtemps dénigrée. Le philosophe Pascal Angèle sera notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, c'est Jean-Marie Gustave Leclésio qui vous cause dans le poste jusqu'à midi et demi. Un aventurier de la littérature, écrivain de la rupture, de l'aventure poétique et de l'extase sensuelle pour le jury qui lui accorda en 2008 le prix Nobel de littérature. L'auteur du Procès-verbal et du désert, et plus récemment de Alma, puis de Bitna, son roman coréen, publie aujourd'hui 15 causeries en Chine chez Gallimard, réflexion sur la littérature et le monde qui nous entoure, portée devant un public chinois. À retrouver tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Qu'est-ce qu'une causerie, Jean-Marie Leclésio ? Bonjour.
Bonjour.
Un discours sans prétention, si ce n'est celle de la sincérité. Ce livre, vos 15 causeries en Chine, aventure poétique et échange littéraire, ce livre rassemble vos interventions auprès d'un public de passionnés du Salon du Livre de Shanghai à l'université de Yangzhou entre 2011 et 2017. Une période où vous avez été régulièrement invité là-bas à venir parler de votre pratique de l'écriture et de votre rapport à la littérature et donc au monde. Mais votre histoire avec la Chine, Jean-Marie Gustave Leclésio, elle remonte à bien plus loin, un rendez-vous manqué dans les années 60. Pouvez-vous nous le raconter ?
Oui, j'étais un sursitaire et donc je ne suis pas allé en Algérie. Mais quelques années après, il fallait quand même faire le service militaire. Et j'ai postulé pour être envoyé en Chine. C'était l'époque où la France recommençait des relations avec la Chine. Et j'étais candidat pour me rendre en Chine, à Pékin. Et pour toutes sortes de raisons, j'ai pas eu le poste que je demandais. On m'a envoyé en Thaïlande. Mais je suis quand même allé en Chine. C'était en 67. Et j'étais à Hong Kong. J'ai pris un train avec un ami. On avait des passeports de service. On pouvait traverser la frontière. On est allé à Canton. Donc 67.
Ce qui vous attirait déjà en Chine à cette époque-là, vous l'avez retrouvé par la suite quand vous avez pu vous y rendre plus régulièrement encore. Cette première fascination pour ce pays, puisque c'est quand même la première destination que vous avez demandé quand vous avez eu l'occasion de partir vraiment loin, c'est à travers la littérature chinoise, les livres, les écrivains chinois ou les penseurs comme Confucius, dont vous parlez aussi dans ces 15 causeries, que vous avez fait connaissance avec la Chine.
Oui, enfin, quand j'étais enfant, j'aimais bien lire les légendes chinoises. Donc, j'étais assez attiré par la mythologie chinoise. Et ensuite, quand j'avais 25, 26 ans, la Chine, quand on avait cet âge-là, à l'époque, c'était vraiment assez étonnant ce qui se passait en Chine. C'était un pays qui s'était complètement révolté contre l'ordre du monde. Et donc j'avais envie d'aller voir comment ça se passait.
Et aujourd'hui, c'est encore un pays révolté contre l'ordre du monde ?
Oui, il reste quelque chose. C'est l'esprit de Bandung, est encore présent en Chine. C'est-à-dire que la Chine est un des rares pays au monde à soutenir les révolutions, les révolutionnaires, les pays qui luttent pour avoir accès aux bienfaits de la modernité. Alors il y a tout de même en Chine un grand intérêt pour le monde. La Chine manifeste un grand intérêt pour le monde.
Les romans français ont mis du temps à être faciles à se procurer en Chine, à être traduits aussi, à être autorisés tout simplement. Là où on imagine que la littérature, les romans chinois étaient plus faciles d'accès chez nous. Comment ça se passait chez vous ? Parce que vous avez souvent raconté qu'il y avait deux bibliothèques. Celle de votre père, plutôt anglophone, celle de votre mère, plutôt francophone, dans les auteurs qui étaient présents. Quelle place pour la littérature chinoise dans tout ça ?
Ben, pas beaucoup de place parce que...
Au milieu du guet, hein.
Ce qu'il y avait, c'était Marco Polo et Mandeville, les deux voyageurs, un véritable voyageur, l'autre un peu, à mon avis, un peu mythomane. Mandeville, à mon avis, pas allé en Chine, mais il s'est servi de, justement de la mythologie chinoise. Donc ça, ça existait dans la bibliothèque, ça donnait envie d'aller voir la Chine en tout cas. Ah.
Vous avez beaucoup voyagé, même après ce rendez-vous manqué avec la Chine dans les années 60. Vous avez vécu une première vie, notamment avec les Indiens du Mexique, un premier choc culturel, puis la Corée où vous êtes resté longtemps, où vous vous êtes plongé à fond dans l'histoire et les mythologies de ce pays. Aujourd'hui, la Chine, vous vous y sentez chez vous ou quand même, quand vous avez appréhendé ce pays, ça a été un autre choc culturel. Est-ce que la frontière culturelle et linguistique qui nous sépare avec la Chine n'a jamais été pour vous indépassable ?
Ben, j'ai essayé d'apprendre les caractères de les idéogrammes chinois. Je suis arrivé à en connaître quelques-uns. Donc ça donne une familiarité avec l'esprit de la Chine. Parce que les idéogrammes, ça n'a rien à voir avec l'écriture phonétique. Les idéogrammes classifient le monde et donnent un aperçu très logique du monde. Je ne sais pas, par exemple, pour dire le miel et pour dire l'abeille, on utilise le même mot. C'est-à-dire que l'abeille produit le miel, mais le miel sert à l'abeille. Et donc, les idéogrammes ont simplement inversé ces deux idéogrammes qui désignent l'abeille et deux idéogrammes qui désignent le miel. On les inverse, on a l'animal ou le produit. Donc ça, c'est cette logique-là qui me séduit beaucoup.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez lire les traductions chinoises de vos livres, de vos romans ?
Je peux lire certains des caractères et apprécier ceux qui sont jolis, apprécier ceux qui donnent un autre sens, qui donnent un sens légèrement différent. Mais je ne dirais pas que je connais l'écriture chinoise au point de lire l'œuvre de Moyen dans le texte. Non, ça, je ne pourrais pas.
Donc, c'est quand même une affaire de confiance avec votre traducteur. Traducteur Su Jun, qui signe ici la préface de ses 15 causeries en Chine, qui paraissent donc chez Gallimard, et qui dit assumer cette vocation presque sacrée qui est celle de la renaissance de l'Ecclésio en Chine. La traduction, c'est toujours une recréation de l'œuvre. Pour vous aussi, Jean-Marie Gustave Leclésio?
Oui, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs âges dans mes traductions en Chine. Et quand je rencontre les premiers traducteurs, ils ont à peu près mon âge. Ils sont très caduques, ils sont très anciens. Et leur traduction probablement a pris un coup de vieux. Et donc, c'est remis à neuf de temps à autre. Ça, oui. Je trouve ça assez passionnant de suivre les strates des traductions.
Et vous qui vous sentez chez vous, dans aucun pays, ou en tout cas être un homme ou un écrivain du monde, cette idée de renaissance dans chacun des pays où vous êtes traduit, elle doit être quand même assez plaisante, non ? D'être un autre homme partout, ou un autre écrivain partout où on est traduit.
Oui. Ce qui est étonnant, c'est que je me sens très mauricien. Et donc quand je suis en Chine, je dis, vous savez, je représente le plus petit pays du monde, et vous êtes le plus grand pays du monde. Vous ne pouvez pas imaginer l'impression que ça peut donner quand on vient d'un pays qui a 1 million d'habitants, qui est grand à peu près comme Paris intramuros, et que vous êtes dans un pays qui est un continent dans lequel il y a plus d'un milliard d'habitants. Ça, c'est ça le grand choc, je crois.
Ça nous dit quoi de notre place sur la Terre ?
Oui, c'est-à-dire que ça remet en place un système d'appréciation des abstractions. Quand on vous dit, alors vous allez parler devant un micro et faites attention, vous allez parler à 100 millions de gens, moi ça me laisse indifférent. Ça m'impressionne beaucoup plus de parler à 300 personnes en chair et en os que de parler à... C'est un côté abstrait. Le nombre en Chine, ça devient très abstrait.
Oui, c'est comme à la radio finalement. Et c'est peut-être pas plus mal de pas savoir, de vivre avec cette abstraction. Sinon, ce serait un peu intimidant, non ?
Oui, c'est là, je crois que vous connaissez bien ça.
Vous préparez, paraît-il, j'ai lu une dépêche d'agence chinoise, un nouveau livre où vous placerez au cœur de ce récit ou de ce roman les pensées de Confucius, qui croiseront aussi les méandres du fleuve Yangtze, le fleuve bleu en Chine. Après votre roman coréen, après votre roman mauricien, le prochain sera chinois.
Pas forcément un roman, mais j'aimerais bien parler des fleuves en Chine. Il y a trois grands fleuves, mais enfin donc le Yangtze, c'est un fleuve puissant, c'est impressionnant. Je ne connais pas l'Amazone, mais j'imagine que c'est assez semblable. C'est un peu la mer. Surtout qu'il remonte vers le nord, alors que vous attendez qu'il aille vers le sud. C'est un fleuve qui va du sud vers le nord, un peu comme le Nil. Donc ça, c'est intriguant, ça.
Donc ce sera le point de départ.
Ce sera le point de départ, et je voudrais parler aussi en effet de Confucius, Kongzi, parce que c'est un homme extraordinaire. Cet homme-là, d'après ce il n'a rien écrit, ce sont ses disciples qui ont rapporté tout ce qu'il disait. Et un jour, un de ses disciples lui dit « Est-ce qu'il y a une phrase qui peut construire un pays ?» Et il dit « Oui, cette phrase, c'est « Il faut respecter les ordres du roi ». Bon, très bien. Le disciple lui dit « Est-ce qu'il y a une phrase qui peut détruire un pays ?» Et Confucius lui répond « Oui, c'est de dire « Le roi a toujours raison ». Et moi, je trouve ça tellement étonnant que 600 ans avant notre ère commune, quelqu'un ait eu le courage de dire quelque chose comme ça. C'est extraordinaire.
On a raison de l'associer à la sagesse.
Oui, oui, et au courage. Mm. Bon, c'est sûr.
Qu'est-ce qu'un homme sage aujourd'hui pour vous, Jean-Marie Le Clézio, un homme juste ?
Bien, le traducteur dont je parle, M. Xu Jun, c'est un sage parce que il a connu toutes les époques. Il est parti du plus élémentaire, c'est un fils de paysan. Il est entré dans l'armée. Et au début, il était attiré par un mât au milieu du village, un mât qui diffusait les nouvelles du monde. Il allait écouter les nouvelles du monde. Et petit à petit, on lui a demandé de choisir une langue. Il a dit « Bon, l'anglais ». On lui a dit « Non, c'est déjà pris ». Alors il a choisi le français. Et là, maintenant, c'est un grand traducteur, un grand érudit. Et il a gardé la modestie, c'est pour ça que je dis que c'est un sage, garder la modestie de ses origines.
Et vous lui dédiez, vous notamment, le final, le dernier chapitre de ces causeries à cet ami exemplaire. Vous écrivez « Depuis que je suis très jeune, je voue un culte à la culture et à la civilisation chinoise dans tous leurs aspects, y compris dans leurs contradictions au temps de la Révolution ». À ce sujet, je voulais vous faire écouter les mots du poète François Cheng sur le dialogue qu'il faudrait peut-être ouvrir entre nous et la Chine.
La Chine est appelée à dialoguer avec l'Occident. Ça, c'est une évidence. Donc, avec tout l'Occident, c'est-à-dire la tradition grecque, hein, toute la tradition, la pensée philosophique et toute la tradition de cette notion du droit et de la démocratie. Par contre, la Chine est appelée aussi à dialoguer avec le christianisme. Si vous me demandez en quoi consiste l'intérêt de ce dialogue, je dirais ceci. Je pense que la Chine, au sortir de la révolution culturelle, c'est un pays qui a touché le fond de l'abîme, donc s'interroge sur le problème du mal, de la souffrance. Je pense que là, le christianisme peut tendre un miroir sur cette notion du mal absolu et de l'amour absolu.
Voilà, là, il nous dit ce que la Chine pourrait trouver à regarder dans le miroir de l'Occident, mais qu'est-ce que nous gagnerions ici, en Occident, à dialoguer un peu plus régulièrement avec la culture chinoise ? Pour vous, Jean-Marie Le Clézio ?
Oui, j'ai bien aimé écouter François Cheng. J'aime beaucoup ses traductions de la poésie Tang, c'est très inspiré. Et il a sûrement raison, et il y a un besoin de retourner, non pas nécessairement au christianisme, mais à des notions très anciennes en Chine, comme celle de l'amour universel. Ça, c'est une notion qui est apparue en Chine avec un philosophe qui s'appelait Maître Mo Tse, et qui disait le fondement, la fondation de l'être humain, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre fondation. Et je trouve ça tellement bouleversant, parce que la Chine est passée à travers des moments extrêmement cruels. La guerre de l'opium, c'était une chose horrible que l'Europe a fait subir à la Chine. Le viol de la Chine, le viol de la Chine traditionnelle par le Japon, c'est des choses terribles. Et donc, après toutes ces épreuves, et plus celle évidemment de la révolution culturelle, il faut revenir à... Alors, pas nécessairement au christianisme. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne à Maître Mo, à Mao Tse. Je crois que c'était le grand homme de la Chine.
Ce serait un point de départ pour ouvrir cette discussion. Vous évoquez dans ces lignes la civilisation chinoise. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée ces derniers mois à l'approche de cette nouvelle élection européenne qui a eu lieu en mai. Est-ce qu'il existe pour vous, Jean-Marie Gustave Le Clézio, une civilisation européenne ?
Oui, elle est assez semblable à la civilisation chinoise, en cela qu'elle est composite, elle est faite de minorités ethniques. Bon, ma famille est d'origine bretonne, je suis d'une minorité ethnique. Je me présente toujours comme ça en Chine, puisqu'il y a 50 minorités ethniques en Chine. Et donc, j'aimerais bien que, comme en Chine, je ne sais pas, la langue bretonne prenne part au festin de l'Europe. Et donc, l'Europe est destinée à se construire sur ces diversités, sur ces divergences, y compris sur les peuples récemment immigrés. Elle a besoin de l'immigration, elle a besoin de se reconnaître comme un élément composite de l'histoire humaine.
Ce qui fait commun, c'est sa diversité.
Ce qui
fait commun.
Oui.
Dans l'Europe, c'est la diversité.
Ah oui, tout à fait, oui. L'Europe, est pour ça que je la compare à la Chine, on pourrait la comparer au continent africain, mais il y a des frontières à l'Europe, et à l'intérieur de ces frontières, il y a ce bouillonnement d'idées qui vient de la Turquie, de la Norvège, de l'Angleterre, de l'Écosse, de la Bretagne, des Basques, et j'en passe.
Et qu'est-ce que vous répondez ou dites à ceux qui redoutent sa disparition, la civilisation européenne, qui serait à la fois menacée par le Sud et les flux migratoires, et par l'Ouest aussi, comme l'évoque notamment le philosophe Régis Debray, qui lui dénonce l'américanisation de nos cultures et de nos sociétés?
Oui, c'est une maladie qui est récurrente en Europe et en France en particulier, c'est de croire qu'on est sous la menace de quelque chose. Et je me souviens qu'à l'époque de Céline, on redoutait l'arrivée des Chinois. Bon, maintenant, on les redoute moins. On redoute l'arrivée de leurs produits, mais on redoute moins l'invasion des Chinois.
C'était le péril jaune, hein ?
Oui, c'est ça. Oui.
Donc, vous n'avez peur de rien, vous ?
Non, j'ai peur de rien. Je suis breton et mauricien, comment voulez-vous que j'aie peur ?
Peur de quoi que ce soit. Invité jusqu'à midi et demi, Jean-Marie Gustave Le Clézio, à l'occasion de l'apparition de ses 15 causeries en Chine, une aventure poétique et échange littéraire. On va parler littérature avec vous jusqu'à midi et demi. France Culture, il est midi 18.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Votre traducteur, toujours lui, dans cette préface, alors je ne sais pas si je prononce bien son nom, Xu Jun, vous le dites mieux que moi.
Xu Jun.
Xu Jun, voilà. Votre traducteur raconte dans la préface que sur la première page de tous vos manuscrits figurent deux mots en deux langues, my soul et ma vie. Chaque manuscrit contient une partie de votre âme et de votre vie, Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Oui. C'était un peu un amusement. Je me balade beaucoup. Moi, je l'écris. J'écris sur du papier, donc je me balade avec des chemises remplies de papier et quelquefois je les oublie. Alors je pense que comme il y a écrit « my soul » mais « mon âme » dessus, quelqu'un qui trouverait, respecterait, peut-être n'irait pas jeter ça tout de suite à la poubelle.
Il penserait à vous le ramener. Laissez plutôt votre numéro alors du coup sur la couverture, ce sera plus pratique, non ?
Bonne idée.
La littérature, est-ce une affaire sérieuse ? Je vous propose d'écouter juste les mots d'un écrivain qui vous est cher, l'Argentin Jorge Luis Borges, pour qui d'ailleurs l'idée de frontière était absurde.
La littérature est une forme possible et fréquente du bonheur, je dirais, de la félicité. Je crois qu'il faut voir la littérature du point de vue hédoniste, surtout, du point de vue de la joie qu'elle peut donner. Par exemple, si je vous dis cette métaphore, la lune, le miroir du temps, vous sentez que c'est beau. Et le fait qu'elle était conçue au Moyen-Âge par un mystique persan est peut-être moins intéressant, non ? Cette image est une belle image, parce que dans le miroir, vous avez l'idée de la clarté, de la fragilité, et en même temps, la lune est claire et fragile, et en même temps, elle est éternelle, elle est toujours là.
C'est un jeu aussi.
C'est un jeu, mais je n'ai pas défendu de jouer, non ? Pourquoi ne pas être ludique, non ? Je me rappelle une sentence de Stevenson. Il disait, oui, l'art est un jeu, mais il faut jouer avec la gravité, avec le sérieux de l'enfant qui joue. C'est-à-dire l'enfant joue, mais en même temps, il le fait d'une façon sérieuse. Il prend son jeu au sérieux.
Et vous, vous prenez votre jeu au sérieux, Jean-Marie Gustave Le Clézio ?
Non, c'était très beau ce qu'il a dit. Et sur l'enfant qui joue sérieusement, ça fait penser à Héraclite, qui dit que le temps, c'est un enfant qui joue tout seul. Je trouve ça... Donc, il... Borges, ça, c'était vraiment quelqu'un.
Et quand il dit ça, il est loin de réduire la littérature à un divertissement. D'ailleurs, c'est une des dimensions de la littérature, vous la rappelez, mais ce n'est assurément pas la seule. Alors pourquoi ? Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la matière première de la littérature, de l'écriture, c'est quand même d'abord une matière humaine ? D'où cette question que vous posez dans ces 15 causeries que vous avez développées dans l'une d'entre elles. Quel est le rôle de l'écrivain dans la cité ? Vous revenez sur cette tradition bien française de l'écrivain qui a un rôle à jouer. On y revient dans l'avènement des droits humains, tout en sachant que la littérature ne peut, rappelez-vous, empêcher ni la guerre, ni les injustices. Qu'est-ce qu'elle permet ? Est-ce qu'elle permet pour vous, aujourd'hui encore, d'imaginer quand même un monde meilleur ?
C'est une fenêtre ouverte. Moi, je n'ai jamais pensé au livre autrement que ouvrir un livre, c'est comme ouvrir une fenêtre et entrer dans un monde qui ne va pas vous ressembler, un monde qui va vous changer, justement, qui va vous permettre de devenir quelqu'un d'autre. Pour moi, le plus beau livre que j'ai ouvert, c'était Don Quixote et Cervantes. J'avais 7-8 ans. Ça, c'était un ouvrage ancien, respectable, avec de belles gravures. J'ouvrais ce livre qui pesait très lourd, et il devait avoir 800 pages. Et j'entrais là-dedans et je ne comprenais pas tout parce que c'est pas du tout un livre pour enfants, Don Quixote. Mais je lisais ça complètement émerveillé dans une traduction en français. Et je croyais que c'était écrit pour moi. Donc et je crois que depuis, les livres me donnent cette impression de la possibilité d'un voyage, d'un départ, de devenir quelqu'un d'autre.
Être au monde, est-ce que... À vous lire, ça semble quand même nécessiter une certaine réserve. Est-ce que vous cultivez volontairement une distance, non pas par rapport au monde qui vous entoure, mais par rapport à la manière dont ce monde peut vous aspirer, pourrait vous aspirer comme chacun d'entre nous ?
J'ai vécu une époque dans ma vie, celle qui a précédé mes voyages, c'est-à-dire quand j'avais entre 18 et 20 ans, où j'ai beaucoup souffert de l'impression d'être incarcéré, d'avoir besoin de casser quelque chose pour sortir. Et puis, justement en quittant l'Europe aux anciens parapets, en vivant un peu au Mexique, j'ai retrouvé ce que j'avais aimé en Afrique, le sentiment que il y a une grande capacité de liberté, une grande capacité de bonheur partout. Et c'est ça que j'ai essayé de poursuivre, avec des chances inégales. Ça n'a pas toujours été réussi.
Et notamment dans les grands centres urbains qui conviennent bien, selon vous, à l'écrivain, ces villes plurielles qui sécrètent une substance intellectuelle qui favorise l'écriture, les époques et les lieux si télescopes, ces agglomérations humaines qui sont, selon vous, pareilles à des livres ouverts. Vous parlez, c'est très beau, de la syntaxe des rues, de la circulation des idées, du mouvement. Il y a une architecture commune entre les villes et le roman.
Oui, en tout cas, il y a une architecture commune entre la parole et la vie dans le monde urbain, parce que il y a une résonance, il y a l'effet d'écho, il y a les réminiscences qui reviennent sans cesse, qui font que vous êtes dans un univers purement humain, et au même instant, vous avez le sentiment que cet univers purement humain a quelque chose d'animal et de violent qui vous unit peut-être à des temps très anciens dans lesquels l'humanité n'était pas encore vraiment définie. C'est une évolution. Et moi, je suis angoissé dans les villes qui ne changent pas. J'adore les villes où, en l'espace d'un mois ou deux mois, des immeubles sont tombés, on a tracé des avenues, on a ouvert des places, on en a fermé d'autres. Ça, j'aime beaucoup ça.
Le mouvement.
Le mouvement, oui. Mmh. Et pour ça, la Chine, la Corée, le Mexique sont des pays merveilleux.
Vous n'avez pas pour autant forcément besoin de silence, on a le sentiment, ni pour écrire, ni pour lire. Votre pratique d'écrivain est née de votre activité de lecteur, vous le rappelez comme une variation ou un prolongement des livres que vous avez aimés. Écoutez à ce propos les mots de l'historienne Mona Ouzouf.
La lecture réclame des biens qui sont devenus luxueux et qui sont le silence, oui. Peut-être aussi un certain ennui. On pourrait aller jusqu'à plaider pour l'ennui, parce que l'ennui ouvre le chemin de la rêverie. Tandis qu'on pourrait dire que l'assaut d'images tue l'imagination. C'est ça le véritable drame de la lecture aujourd'hui. Ça ne tient pour moi pas du tout aux querelles sur les méthodes. Ça n'a aucune importance. Ce qui donne envie de lire, c'est comme toujours, c'est le bon maître, c'est le bon instituteur, comme c'est le bon professeur qui illumine une année ingrate de lycée.
Alors vous plaiderez peut-être, vous, Jean-Marie Gustave Le Clézio, pour un silence intérieur plus que un silence environnant pour pouvoir vous concentrer. Il paraît que vous pouvez lire partout, que vous lisez aussi de tout. La lecture est en soi un refuge pour vous dans le bruit de ce monde, une échappatoire à elle toute seule.
Oui, ça serait aussi une très grande jouissance, pas seulement un refuge, mais très grande jouissance. Et Mona Ozouf a raison, la lecture c'est diamétralement opposé à l'image. Et quand je me souviens des livres que j'ai aimés quand j'étais enfant, les dictionnaires que je lisais n'avaient pas d'image, il n'y avait pas de photos, très peu d'illustrations. Et c'était le bonheur d'entrer dans un texte. Et les dictionnaires étaient bien écrits autrefois, c'était souvent des écrivains qui les composaient. Et donc, l'alimentation par les mots, c'est merveilleux. Ça semble un monde infini. Il semble que le langage soit infini.
Du coup, vous diriez aussi que la lecture vit aujourd'hui une époque dramatique, cette époque de l'image?
Je ne suis pas aussi pessimiste que Mona Ozouf. Je pense que la jeunesse a besoin de mots aussi, et donc ils trouvent les mots ailleurs, pas nécessairement dans les livres. Je suis assez touché de voir que les jeunes aient besoin de reconstituer un univers théâtral et un peu magique grâce aux jeux vidéo, par exemple. Je trouve ça assez intéressant. Justement, quand je parle avec des jeunes en Chine, souvent ils me disent « Non, mais je ne suis pas capable d'écrire un livre, je ne serais pas capable de m'intéresser à la littérature, mais j'aimerais bien créer des jeux. » J'aimerais bien créer des jeux vidéo. Ils sont en train de dire qu'ils ont vraiment besoin de la littérature. C'est ça qu'ils disent.
C'est une question qu'on va ouvrir dans la deuxième partie de la Grande Table avec notre invité, le philosophe Pascal Angèle, celle de la vérité aujourd'hui, souvent malmenée par un certain nombre de penseurs qui ont estimé que ce n'était plus une valeur nécessaire. Et c'est pourtant une question que vous ouvrez aussi dans ces 15 causeries en Chine. Jean-Marie Gustave Le Clézio, l'écrivain a-t-il un rôle moral à jouer, à tenir? A-t-il une responsabilité dans la vie sociale? Regarde la question ouverte.
Oui, mais c'est une question qu'on m'a posée, c'est pourquoi j'ai voulu y répondre. En Chine, il y a une sorte d'élément fondamental dans la pensée chinoise qui est l'utilité. Ça doit servir à quelque chose. Lorsque vous écrivez, ça doit servir à quelque chose. Et lorsque vous êtes un écrivain, vous devez servir à quelque chose. Et je leur opposais toujours Oscar Wilde qui disait « Non, mais la littérature est parfaitement inutile ». Donc, on discutait sur ces questions-là. Et en fin de compte, je me suis aperçu que je n'avais pas forcément raison dans ma prétention et mon orgueil d'Européen de croire qu'on pouvait se permettre de ne pas être utile. Donc j'ai repris ces questions d'utilité, écrire pour quelque chose.
Merci beaucoup à vous, Jean-Marie Gustave Le Clézio. 15 causeries en Chine, aventure poétique et échange littéraire vient de paraître chez Gallimard. Merci.
Merci.